Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Et on ne sait pas si les syndicats ont perdu la bataille des retraites, mais en tout cas il y a un manifestant parmi tous les milliers d'autres qui sont toute la France qui s'appelle André Berkoff. En ce moment il mène sa propre opération escargot dans les rues de toutes les villes de France. André Berkoff qui arrive, il tient sa pancarte avec son mégaphone, il va vous expliquer pourquoi. Eh bien il a peur de cette réforme des retraites au programme de Berkoff dans tous ses états ce vendredi sur Sud Radio. D'abord on va reparler de cette affaire Mila. Vous savez c'est cette jeune adolescente effectivement qui a insulté dans une vidéo l'islam et le Coran et qui se retrouve la cible de menaces de mort. Ce sera le fait du jour d'André Berkoff qui vous expliquera aussi tout ce qui s'est passé d'assez grave à ses yeux en tout cas et bien en France ces derniers jours. On va parler ensuite de la fameuse circulaire Castaner. C'est quoi? C'est simple, vous habitez en France dans une ville qui fait moins de 9000 habitants. Si elle fait moins de 9000 habitants, vous n'aurez pas le droit de savoir si votre maire est de droite ou de gauche. C'est un peu dommage mais c'est ce qu'a prévu le ministre. En tout cas les maires de France sont fous de rage contre ça. Et puis lanceurs d'alerte, le coronavirus, on en entend parler tout le temps. Vous êtes très nombreux à nous interpeller sur le sujet, y compris sur le Facebook et le Twitter de Sud Radio. Le coronavirus qui sème la panique justement en Chine. Les Chinois sont donnés 10 jours, tenez-vous bien, 10 jours pour construire un hôpital pour traiter les malades et endiguer l'épidémie. On verra tout ça avec l'ami Berkoff qui vient juste de faire son entrée dans le studio de Sud Radio. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Dans tous mes états, d'abord, je ne vous dis pas les embarras de la circulation, je ne veux pas pour raconter ma vie, mais c'est la vie de millions de Français en ce moment. Dans tous mes états, parce qu'il se passe quand même des choses très désagréables en ce qui concerne un retour de quelque chose qu'on croyait que c'était fini, une espèce de guerre de religion, de guerre de communauté, d'un peu partout, de quelque chose qui, franchement, c'est très pourrissant. Vous savez, on disait Hamlet, Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Et là, on a l'impression qu'il y a plusieurs choses de pourri au royaume de France. Et ce n'est jamais agréable. Et ça, il faut le combattre absolument. On en parle.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Le bon Dieu me le pardonne, c'était un peu vrai. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou.
Voilà, et c'était quand, il y a 60 ans, un certain Georges Brassens pouvait dire « Le bon Dieu me le pardonne, qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. » Et dire, à l'époque, de 60, il dit « Bon, ben, le bon Dieu, je m'en fous. » Eh bien, franchement, tout le monde applaudissait, y compris les croyants, y compris tout le monde. Aujourd'hui, si vous dites « le bon Dieu, je m'en fous », ça commence à poser de sacrés problèmes. Et si vous attaquez à telle ou telle ou telle religion, ça pose encore plus de problèmes. Alors franchement, il faut sortir de là. Encore une fois, on l'a dit ici à Sud Radio, on le dit dans Berkoff dans tous ses états, chacun a droit au respect de sa croyance et de sa religion. Le problème, c'est que la religion est du domaine privé et pas du domaine public. Une fois qu'on a compris ça et nos ancêtres se sont battus pour ça, eh bien, une fois qu'on a accepté ça et compris ça, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui n'acceptent pas cela et qui ne comprennent pas cela. Et ça pose vraiment des problèmes qu'on ne comprend pas. Par exemple, ce qui se passe. Dimanche, un quart de pèlerins catholiques de Caen a été attaqué, immobilisé, puis attaqué avec des pistolets à peinture sur le pare-brise, dimanche matin, par un groupe de personnes cagoulées. Évidemment, toujours courageusement cagoulées. Dans la nuit de samedi à dimanche, je vous parle de là, il y a quelques jours, 8 églises et établissements scolaires catholiques ont été vandalisés à Bordeaux et Talence. L'État, qui ont tous la même signature, invoque effectivement pédophilie, les projets de loi bioéthique, etc., etc. Et là, on peut se défouler. Alors, tant que quelque chose qui me frappe, tant que c'est des cathos ou des chrétiens, on y va. Le reste, bon, c'est quand même un peu plus difficile. Par exemple, il y a eu quelque chose le 14 janvier, au lycée Max Dormoy, Paris, 18e arrondissement, je rappelle qu'on est en 2020. Un groupe d'élèves a tabassé et balafré un jeune chrétien franco-serbe qui s'appelle Lazare, qui refusait d'enlever sa croix orthodoxe autour du cou. C'est les orthodoxes portent une petite croix autour du cou, ce n'est pas ostentatoire. On a vu la photo, on est à la radio, on ne peut pas vous la montrer, mais c'est une petite croix. Eh bien, il a été agressé, frappé, et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le conseiller principal d'éducation du lycée, donc je dis le nom, Max Dormoy, a minimisé l'affaire et s'est même moqué des parents de Lazare en confirmant qu'aucune sanction ne sera prise contre les agresseurs. C'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire que les parents vont voir et disent « Voilà, mon fils a été battu, agressé, tabassé. Ah ben oui, mais écoutez, c'est pas grave, voilà. Bon, c'est des petits incidents, on passe, circuler, il n'y a rien à voir. » Alors les parents de Lazare ont depuis porté plainte auprès de la police, espérant que justice sera faite. Et ben pour le moment, le collège Max Dormois, ben il dort. Il dort, ou il est passé sous la moquette, ou il rampe, on ne sait pas, il dort. Et je ne parlerai pas des statues de la Vierge Marie détruites dans cette église de Pau. Et le suspect a été admis en psychiatrie, parce que évidemment, c'est toujours la psychiatrie maintenant. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus que des déséquilibrés. Il n'y a plus de quelqu'un qui commet en intention, en lucidité. Non, c'est que des fous, évidemment, voilà. Et je finis sur les actes antichrétiens, parce qu'il faut quand même en parler de temps en temps. Les actes antichrétiens cette année arrivent en tête devant toutes les autres phobies, quelles qu'ils soient. 1063 actes antichrétiens annuels contre 541 actes antisémites et 100 actes anti-musulmans. Ceci pour l'année 2018. Encore une fois, on condamne tous ces actes, qu'ils soient anti-musulmans, qu'ils soient antisémites, qu'ils soient antichrétiens, on condamne tout. Mais qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? C'est que, en fait, il y a non pas 2 poids 2 mesures, mais 10 poids 2 mesures. Vous rappelez, on vous en a parlé, l'affaire Fromet, une affaire Fromet à France Inter. Donc, il y a un humoriste, oui, ça s'appelle un humoriste, et qui a fait une petite chanson. Je ne sais pas si on l'a, cette chanson. Je voudrais juste vous faire entendre, ça a été devant un public, qui applaudissait pas public, le père qui applaudissait. Donc, France Inter, je rappelle, radio de service public, dont on paye la redevance. C'est pas une radio privée, c'est pas Sud Radio. Sud Radio, vous écoutez Sud Radio, vous ne payez aucune redevance, vous écoutez parce que vous avez envie de l'écouter, et on ne vous demande pas de payer quelque chose. C'est pas le cas de France Inter et du service public. On vous demande de payer. Donc, voilà ce que disait ce merveilleux humoriste. Écoutez.
Jésus, Jésus, Jésus est pédé. Je vois pas pourquoi ça dérangerait. Du haut de la croix, signe révélateur. Jésus écoute Mylène Farmer. Jésus, Jésus, Jésus est pédé. Membre de la LGBT. Du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi l'avoir pas enculé?
Voilà. Alors je vais vous dire, moi, je ne demande pas que ça soit interdit, que le mec soit décapité et qu'on aille le chercher pour encore le massacrer. Ouais. On ne demande pas ça, bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'évidemment, qu'est-ce que vous voulez, c'est incroyable. Il y a des gens qui n'ont pas d'humour, qui ont dit quand même, c'est un peu choquant. C'est un peu, mais enfin, vous n'avez pas d'humour. C'est tellement spirituel, c'est tellement l'esprit français, c'est tellement pas qu'à niveau, enfin, bon. Alors, effectivement, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, s'est excusée. Et Frédéric Fromet, le petit humoriste, enfin humoriste, appelons ça si vous voulez comme ça, s'est excusé aussi. Mais auprès de qui? Pas du tout auprès des chrétiens. Jésus, PD, etc., etc. Non, non. Voilà ce qu'il a écrit Frédéric Fromage. Non, pardon, Frédéric Fromet. Je constate que ma chronique est ratée. Elle n'avait pour but que de dénoncer l'homophobie. J'ai été si mal compris que j'ai même heurté une association LGBT. C'est ma faute, donc je m'excuse. Certes, il ne s'excuse absolument pas auprès des chrétiens dont il a peut-être heurté la sensibilité. Il n'en a rien à battre. Non, non, la LGBT, alors attention, lesbienne, gay, tout ça, trans, eh bien là, il y a un problème. Et quand, par exemple, une certaine Mila critique, on en a beaucoup parlé, là, c'est la religion musulmane, elle reçoit des milliers de menaces de mort, et là, c'est ça qui est extraordinaire, le parquet la poursuit pour incitation à la jeune Mila, 16 ans, lesbienne, le parquet la poursuit pour incitation à la haine raciale. Mais je ne sache pas que les musulmans, c'est une race, ni les chrétiens, ni les juifs. Qu'est-ce que ça veut dire, incitation à la haine raciale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il y a, est très grave, vous avez les semeurs de haine, et vous avez les fabricants d'excuses. Vous savez, ceux qui font des choses dégueulasses. Mais il y a pire, ceux, autorités et autres, qui les laissent faire. Et je crois que tant qu'on sera dans ce genre de problématique, je vais vous dire, c'est pas fini la guerre, c'est pas fini l'affrontement communautaire, c'est pas fini tout cela. Et c'est franchement plus que préoccupant. Alors réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous.
Et vous voyez, tout vient à point, à qui c'est attendre. Berkoff est arrivé, il est en pleine forme. D'ailleurs, il n'a pas changé depuis hier, il faut le reconnaître. Que vous soyez d'accord ou pas avec lui, d'ailleurs, ça c'est très important, parce qu'on est là pour débattre sur Sud Radio. Parlons vrai, quitte à nous engueuler vraiment d'une manière polie, tant qu'on n'est pas d'accord. 0-826-300-300. Vous nous appelez à tout moment, vous intervenez. André Berkoff vous attend. On est vendredi, ça veut dire qu'on est là jusqu'à 13h. À tout moment, vous avez la parole sur Sud Radio.
Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Bonjour, monsieur le maire.
C'est de la joie, sous votre toit, c'est de la joie.
Bonjour, monsieur le maire.
Eh oui, le slogan, tout se rappelle, enfin... Peut-être pas les moins de 20 ans, bien sûr.
Ni les moins de 33 ans.
Ni les moins de 33 ans. Vous ne... Pierre Monde, ça ne vous dit rien du tout.
Non, mais écoutez, c'est... je me cultive tous les jours. Hein.
Absolument. Et avec moi, on ne peut que se cultiver, comme vous le savez. Donc, monsieur le maire, et on vous parle, vous savez, on vous a parlé il y a quelques jours dans Berkoff, dans tous ses états. On vous a parlé de cette circulaire Castaner qui disait que pour les élections municipales, quand on va faire le décompte, on ne va pas tenir compte des appartenances politiques dans les communes, dans les villes de moins de 9 000 habitants. Vous imaginez, dans toutes les villes de moins de 9 000 habitants, ce qui fait 96% des communes françaises et 54% de la population. Excusez du peu. Eh bien, il y a du nouveau, et je vous avais lu d'ailleurs la lettre formidable de c'était dans Agri, où la personne disait, alors nous, on compte plus. Alors la ruralité, les paysans qui votent tous, on s'en fout. Mais non, vous n'avez pas d'étiquette, on s'en fout, vous êtes encore une fois cette France plus que périphérique qui ne compte pas. Eh bien, l'Association des maires de France, avant-hier, a demandé au gouvernement de renoncer à sa circulaire qui demande aux préfets, dans les pour les municipales, d'attribuer une nuance politique. Ils ont dit non, eh bien, il n'est pas question de le faire. L'Association des maires de France ont changé d'avis, parce qu'au départ, ils étaient pour. Hein. Au départ, l'AMF, les maires ruraux étaient pour. Et là, ils ont dit, il n'en est pas question, vous allez retirer cette circulaire. Eh bien, écoutez, pour une fois, parce que François Baroin, le président de l'Association des maires de France, avait au début semblé approuver la circulaire Castaner, apparemment, ce n'est plus le cas. Et franchement, c'est tant mieux, parce que cette espèce de mise à l'écart, de mise à l'index et de faire disparaître la ruralité française dans un trou noir était assez scandaleuse.
Bon, en tout cas, c'est votre avis. C'était l'avis aussi du gouvernement, effectivement. Quel que soit votre avis à vous, vous nous appelez 0826-300-300. Vous êtes les bienvenus. Berkoff vous attend. Vous habitez dans une ville de moins de 9000 habitants. Vous voulez savoir si votre maire est de gauche ou de droite? Ben, venez nous le dire, justement. On vous attend et on vous donne la parole à tout moment sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
On parlait jusqu'ici de la Chine que pour l'affaire du vol de technologie, l'affaire, effectivement, quand la Chine s'éveillera, hein, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on parle de la chimérique, la Chine et l'Amérique. Et puis voilà qu'arrive quoi ? Arrive le virus qui répand la terreur. Que se passe-t-il exactement ?
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Nuit de Chine, nuit d'Aline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse.
Eh oui, Aline, nuit d'amour, nuit de Chine, Madame Butterfly, etc., etc. Hein, le côté Asie, mystérieux, magnifique, etc. Eh bien, on n'est pas du tout là. Parce qu'un spectre, il faut le dire, hante aujourd'hui le monde et répand la terreur, c'est bien le coronavirus. Aujourd'hui, on sait, si on fait le point, que 40 millions d'habitants du centre de la Chine sont désormais bloqués par les mesures anti-épidémie. 40 millions, c'est pas mal, même dans un pays d'1,5 milliard d'habitants. Et il y a déjà plus de 20 morts en Chine. Et on entend, écoutez, c'est en chinois, mais écoutez.
«
Oui, c'est un médecin qui pleure, on l'a vu à la télévision, il pleure, il est en larmes dans un hôpital de Wuhan, et il s'emporte, il demande des renforts de médecins devant l'afflux de patients, il dit, il y a trop de cas, on n'en arrive plus, parce qu'il tombe, hélas, comme des mouches, et c'est terrifiant, et c'est, nous, n'oublions pas, on ne connaît pas encore exactement le coronavirus, l'OMS, évidemment, s'en occupe, tout le monde s'en occupe, mais c'est un virus filtrant, c'est un virus qui mute, et c'est un virus qui est très, très, très contagieux.
D'ailleurs, on peut dire aussi que les Chinois mettent les bouchées doubles. Vous avez vu cette information qui fait le tour des réseaux sociaux ce matin. Les Chinois sont donnés 10 jours pour construire un nouvel hôpital qui pourra traiter 2000 patients, seulement des patients touchés par le coronavirus.
Sauf que aujourd'hui, ce n'est plus seulement en Chine, c'est à Taïwan, c'est en Thaïlande, c'est au Japon. Et il faut dire aussi qu'il y a eu des Français qui étaient à Wuhan, qui sont rentrés en France. Bon, et qu'on n'a pas du tout mis en quarantaine, qu'on n'a pas mis du tout, parce que dit la ministre de la Santé, il y a effectivement, on a pris des précautions en France. Écoutez Agnès Buzyn.
Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs, parce que nous savons que certains voyageurs peuvent avoir fait un séjour en Chine, puis dans un autre pays du monde, dans le cadre d'une escale, et donc il faut que tous les voyageurs aujourd'hui aient les mêmes niveaux d'information. Donc ces affiches sont dans tous les aéroports internationaux français et ils expliquent la conduite à tenir. Il y a aussi des messages vocaux dans les ordinateurs et des messages sur les réseaux sociaux.
J'adore Agnès Buzyn. Vous savez, si l'affaire n'était pas aussi grave, on pourrait se permettre d'émettre un léger ricanement. On voit très bien la chose. Hein. Les gens arrivent de Wuhan et ailleurs, dans les aéroports, ils voient les affiches d'information, le virus prend peur et rentre dans l'avion. Le virus dit « Ouh là là, ils sont prévenus, donc je vais rentrer ». Non, c'est pas sérieux. L'affiche d'information, c'est très gentil, mais ça n'enlève rien. Et plus grave, c'est que dans certains pays d'Asie et aux USA, ils sont allés un peu plus loin que Madame Buzyn, ils ont mis des caméras thermiques pour mesurer la température.
Pour voir si vous avez de la fièvre, qui peut être un symptôme.
Voilà, la moindre des choses. Mais c'est pour ça, enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de paniquer les populations. Mais il faut savoir que quand vous êtes en période d'incubation, vous n'avez pas de fièvre. C'est-à-dire que la caméra thermique, si elle vous teste, effectivement, mais si vous êtes encore en période d'incubation, et l'incubation, ça peut durer de 1 à 2 semaines, ce n'est pas décelable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu déjà, il y a eu des Français qui sont rentrés de Wuhan. J'espère qu'on va vraiment les surveiller, pour eux, d'abord, évidemment, et pour leur santé, et pour la santé de la population, parce que, encore une fois, il faut le dire, c'est extrêmement contagieux, ce virus, et j'espère que, on va trouver, évidemment, le vaccin qu'il faudra, on va trouver les contre-attaques.
Et que ça va s'endiguer,
Et il faut être très, très, très vigilant là-dessus.
Et en tout cas, c'est important. Alors, on en est tous réduits, réduit à faire confiance aux autorités, donc faisons-le, on n'a pas trop
le
choix.
Bien sûr, mais simplement qu'on ne parle pas seulement d'affiches,
C'est ça.
Et qu'on ne fait pas de la communication pour faire de la communication.
Mais quoi qu'il en soit, on est obligé de donner ce conseil, c'est-à-dire que si jamais vous arrivez à un aéroport et que vous revenez de Chine, lisez-les bien ces affiches, c'est important, suivez toujours toutes
les consignes.
Mais surtout,
non, ne lisez pas seulement les affiches, allez tout de suite voir SOS Médecin ou un médecin.
Et consultez, et faites très important,
c'est surtout
0826 300 300. D'ailleurs, est-ce que ça vous inquiète justement cette histoire de coronavirus, cette épidémie qui est partie de Chine et que pour l'instant on n'arrive pas à endiguer? À tout moment aussi, vous venez nous le dire, on en parle avec André Berkoff sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Raccrocher, c'est une horreur.
Oui, raccrocher, c'est une horreur, c'est une jolie chanson de Gainsbourg Berkin, mais l'horreur, elle est pas du tout rigolote, elle est pas... En Turquie, une proposition de loi vient de paraître. Et vous voyez, j'aimerais que nos féministes qui s'affolent dès qu'il y a quoi que ce soit, vous savez, dès qu'il y a un regard masculin, le eye contact, on en a parlé, le viol par le regard, voilà ce qui se passe en Turquie, voilà ce qui s'est... Il y a une loi qui vient de paraître, qui permettrait aux hommes qui ont eu, effectivement, des relations sexuelles avec une fille de moins de 18 ans, eh bien, ils ne seront pas punis. Et souvent, quand ils ont des relations sexuelles, c'est souvent du viol. Eh bien, c'est très simple, ils pourront épouser leur victime. C'est-à-dire que s'ils épousent leur victime, eh bien, tout ira bien. C'est une loi officielle.
C'est une proposition de loi,
une
c'est ça
Une proposition de loi qui n'a pas encore été votée par le Parlement turc. Voilà. Il dit, écoutez, c'est extrêmement simple, c'est une proposition, mais déjà la proposition n'est pas mal. Et c'est-à-dire que si vous avez eu donc des rapports avec une fille de moins de 18 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 12 ans, peu importe, etc. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème, épousez-la et tout ira bien. C'est quand même hallucinant et on sait très bien que dans un pays comme la Turquie, comme dans d'autres pays, il y a des affaires de viol terrifiantes, il y a des affaires de viol sur des mineurs terrifiantes. Et alors, quand on propose effectivement le mariage comme remède, et à ce moment-là, on ne touche plus à la personne, le violeur sera plus touché, eh bien bravo, vive la Turquie.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'avenir des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Alors je ne sais pas si Macron le veut ou le veut pas, moi, je fais un bravo, c'est au-delà vraiment de la politique. Pour ce qui s'est passé hier soir, c'est ces extraordinaires retraites au flambeau. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de problème de Lille, Paris, Marseille, Rennes, Metz, Bordeaux, Toulouse, partout. Eh bien, il y a eu des milliers et des dizaines de milliers de personnes dans toute la France ont circulé. C'était bon enfant, c'était beau, c'était les villes lumières. Eh bien, écoutez, ça s'est vraiment très, 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 très bien passé. Et on voit en tout cas ce qu'on peut dire. On peut dire ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui est là. Le mouvement n'est pas mort. On peut le déplorer ou s'en réjouir. C'est un autre problème et c'est la vie de chacun. En tout cas, quelque chose est là et visiblement n'est pas en train de disparaître au-delà des syndicats, au-delà des appareils, au-delà de la bureaucratie, quelle qu'elle soit. Les quelque chose est là et visiblement est là pour rester, en tout cas pour un bon moment.
Eh ben en tout cas, vous restez avec nous sur Sud Radio, en compagnie de Berkov, dans tous ces états. Tiens, juste une précision, il est important, si jamais vous avez peur d'avoir des symptômes qui correspondent au coronavirus et que vous revenez de Chine, c'est le 15 qu'il faut appeler, c'était la consigne des sécurités, c'est pour ça que je vous la redonne. Quoi qu'il en soit, dans quelques instants, nous retrouvons l'invité d'André Berkov sur Sud Radio, et on sera ensemble jusqu'à 13h. Ce sera Omar Youssef Souleyman, il est poète et journaliste, il a été correspondant de la presse syrienne, clandestin, il est exfiltré à Paris, où il vit aujourd'hui. Il nous présentera son roman Le Dernier Syrien, c'est publié chez Flammarion. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Et je reçois Omar Youssef Souleyman. On va parler de la Syrie, on va parler de l'islamisme, on va parler du Proche-Orient. Et on va parler de questions, vous le savez, depuis longtemps, ça ne concerne pas le Proche-Orient, ça concerne ici. Le Proche-Orient est un miroir qui nous réfléchit ici en Europe. On en parle tout de suite.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Omar Youssef Souleyman, donc l'invité d'André Berkov et auteur du livre Le Dernier Syrien, publié chez Flammarion.
Alors, j'ai lu ce livre avec vraiment beaucoup d'intérêt. C'est un roman, mais c'est un roman, je dirais presque que c'est un roman vrai. Enfin, c'est un roman qui raconte cette génération, on parle génération perdue ou génération en tout cas retrouvée, de cette Syrie déchirée depuis les affrontements, depuis 2011, depuis une espèce de guerre civile qui s'est déclenchée, avec les exactions de Bachar el-Assad, avec les islamistes, avec cette espèce de pays déchiré, en rupture, en balkanisation, j'allais dire en libanisation, c'est le pays voisin ouais. qui est à côté. Et en lisant, alors vous parlez justement toute période très dure, période d'amour, mais période aussi de torture, période de haine, période très très dure et qui continue encore. Mais Omar Youssef Souleyman, au fond, ce dernier Syrien, est-ce que ce dernier Syrien, après lui, il n'y aura plus de Syrie? Ou est-ce que la Syrie est en train de se partitionner? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Le dernier Syrien, pour moi, c'est le rêve qui accompagne les Syriens, où qu'ils soient, dans le monde entier, après tout ce qu'ils ont perdu dans ce pays déchiré, comme vous avez dit. Après, ce qui m'intéresse, c'est raconter l'autre visage de la Syrie, dont on ne le raconte pas souvent dans les médias, c'est-à-dire le visage de ces jeunes qui ont lutté contre le pouvoir en 2011, oui. de ces femmes et de ces hommes qui ont donné leur vie pour la liberté de leur pays. C'est un roman d'inspiration autobiographique concentré sur ces personnages dont où je raconte leur vie dans ce livre. On a, par exemple, le personnage principal du roman qui s'appelle Joséphine, qui rassemble ces jeunes autour d'elle.
Et c'est des gens que vous avez connus, que vous avez vécu cela. Enfin, vous, c'est des gens que vous avez connus autour de vous, quoi.
Voilà, en fait,
c'est des portraits, enfin, c'est romanisé, bien sûr, c'est fiction, mais...
Disons, ces portraits, en fait, ces personnages sont inspirés, c'est-à-dire
c'est ça,
de vrais personnages dont j'ai rencontré en Syrie. Et voilà, en fait, c'est...
Vous êtes né, vous, où, Omar? Vous êtes né à Damas?
Je suis né à côté de Damas, au
banlieue de Damas.
Ouais,
d'accord.
Tout à fait.
D'accord. Alors justement, et on le voit, enfin, ce roman est très prenant d'abord, je tiens à le dire, parce que c'est un roman qui montre combien, effectivement, des jeunes qui ont envie de vivre leur vie et comment la liberté, elle est saccagée. Mais j'ai envie de vous demander, on va pas parler géopolitique, mais quand même, de loin, on se disait oui, mais alors, il y a Bachar el-Assad, s'il n'y avait pas Bachar el-Assad, il y aurait de Daesh. Parce que ici, vous savez, chez nous... Oui, exactement. Mais justement, le cliché, il est là. Hein. Et on dit aussi, et surtout, n'oubliez pas que tous les militants du califat allaient en Syrie. Hein. C'était ça, destination de la Syrie pour se battre pour le califat. Je voudrais que vous nous disiez, est-ce que cette alternative, elle est fausse ou elle a quand même un semblant de réalité?
Je crois qu'elle est fausse parce que si Bachar el-Assad part... Il y aura toujours n'importe qui va remplacer Bachar el-Assad, ça va être moins pire que lui. D'ailleurs, Bachar el-Assad, si on dit que soit Bachar el-Assad, soit les islamistes, ça c'est le discours de Bachar el-Assad, qu'il a réglé, qu'il a fait tout afin que laisser la Syrie vide après lui, laisser la Syrie pour les islamistes après lui. Il a joué avec les islamistes, avec Al-Qaïda, avec Daesh, Jabhat al-Nusra. Et c'est pas nouveau, en fait. Le régime syrien, il joue avec les islamistes depuis 2004, après l'occupation des Américains.
Avec Hafez al-Assad, déjà.
Avec, bien sûr, on revient dans l'histoire. C'est
bien sûr.
Avec Hafez al-Assad. C'est-à-dire qu'il y a une complicité secrète entre ce régime et les islamistes.
Allez-y. Même encore maintenant.
Bien sûr.
Oui.
Et même, en fait, c'est dans la société syrienne, ce que j'ai aussi essayé de raconter dans ce livre, que le régime, à quel point il profite et il a profité des frères musulmans dans les années 80, surtout 82, comment il a enseigné l'islamisation en Syrie afin d'avoir un sort d'équilibre entre lui et les frères musulmans dans la société syrienne. Et dans un seul coup, s'il y aura un mouvement grave en Syrie, il pouvait profiter de ça pour déclencher une guerre civile. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il réussit toujours? C'est-à-dire, ce
uniquement pour asseoir son pouvoir. Vous dites tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il veut garder le pouvoir et qu'il est prêt à tout pour garder le pouvoir.
Et la preuve sur ça, c'est qu'il a vendu ce pays pour tout le monde, pour les Russes, pour les Iraniens, et il a lâché le nord de la Syrie pour les Turcs. Donc, qu'est-ce qui est encore le plus pire qui va arriver? Plus que ça. Après toutes ces victimes, après plus que 2 millions de domiciles en Syrie qui étaient détruits, après, en Syrie, c'est un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Donc tu crois, si les islamistes...
Mais vous dites qu'il n'existe plus, il n'y a plus de Syrie en tant que telle aujourd'hui.
Elle existe dans les têtes des Syriens. C'est pas dans la réalité. Donc c'est un grand massacre. Et je crois à ce discours qui dit que soit Bachar el-Assad, soit les islamistes, et Bachar c'est le moins pire, je crois pas que c'est le moins pire. Alors évidemment, je ne soutiens pas de tous les islamistes, mais je crois à ce...
Si oui, Bachar, je pense pas que vous êtes pour le califat, vous-même.
Oui, vous pensez que c'est...
Non, je ne pense pas, je veux dire, justement.
Moi non plus, je pense pas, mais en fait, je crois qu'au contraire, si ce régime barre, il y aura plus de califat. Il y aura plus d'islamistes.
Ah, alors justement, qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent, je sais pas, encore une fois, je rappelle le roman, mais le roman illustre aussi très bien ça. Vous savez, on disait le meilleur, ce serait une fédération syrienne avec au nord les Kurdes, dans la bande les Alaouites sur la Méditerranée et les Sunnites ailleurs. Est-ce qu'on va éventuellement vers ça ou pas du tout?
C'est la proposition d'un des personnages qui s'appelle Youssef dans le roman qui a proposé ça afin d'avoir un sort de liberté. Entre dans la société syrienne, parce que pour lui, c'est comme on est une société, on vit dans une société tellement compliquée, il y a plein d'ethniques, plein de religions, etc. Et c'était une proposition un peu officielle dès le début de la révolution, et je crois, moi je le crois. Oui, bien sûr, ça sera une solution très pratique et efficace.
Oui, au moins chacun pourrait vivre, en tout cas en autonomie peut-être. Oui.
Parce qu'enfin, l'idée d'un pays, c'est vivre. C'est pas l'affaire. L'affaire, c'est qu'un moyen, c'est pas un but. Et c'était ça l'idée pour ces militants. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi, on les trouve dans le roman, qu'on trouve qu'ils sont vivants, ce qui les intéresse aussi, leur vie quotidienne, lutter et résister contre tous les tabous dans la société. C'est pas seulement pour l'affaire. Elle n'était pas engagée non plus dans un parti politique traditionnel en Syrie. Elle était tellement indépendante. Sauf que comme personne ne les a soutenus, on trouve aujourd'hui qu'ils sont partout dans le monde entier.
Dites-moi, on sait combien sont partis, par exemple, parmi les Adel et tout ça, les Khalil, tout ça. Combien sont partis, vous dites-les? Il y a 1,5 million de Syriens au Liban, il y a un peu partout. Est-ce que ces gens-là, un jour, reviendront? Est-ce que vous reviendrez en Syrie?
D'ailleurs, combien sont partis? On a le chiffre qui était annoncé en 2017 par Human Rights Watch, on a 12 millions entre déplacés et réfugiés. C'est-à-dire plus que la moitié de la population syrienne avant la guerre, on était 23 millions. Ouais. Et donc, alors personnellement, à l'avenir, si je reviendrai, si j'aurai la possibilité de revenir, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas car je n'ai pas le moyen, je n'ai pas de passeport, autant réfugié en France. Oui. Mais un jour, si j'aurai un passeport français, je reviendrai en Syrie seulement pour visiter ma mère. Ce n'est pas pour rester. Parce qu'après tout ce temps ici, et je crois que c'est le cas pour beaucoup de Syriens, pas seulement en France, dans le monde entier. En plus, ça débat en fait. S'il y a des Syriens ou pas importe quel réfugié qui était intégré dans une nouvelle société, c'est-à-dire il a créé une nouvelle vie, ça va être très difficile de revenir.
Et il a envie de vivre là, effectivement, et vivre sa vie ici.
Bien sûr, ce qu'il change aussi.
Mais alors les jeunes, justement, que vous avez connus, qui sont restés en Syrie, comment ils arrivent à vivre, comment ça se passe aujourd'hui?
Alors la plupart des jeunes, si on parle de réalité, la plupart des jeunes avec qui j'étais en Syrie sont morts à cause dans des manifs, par des snipers, ou dans la torture à cause de la torture dans les prisons de Bachar al-Assad, qui ressemblent beaucoup les prisons chez les nazis. Et soit ils sont partis de la Syrie, ils sont en Turquie, au Liban ou en Europe. Donc, c'est pas du tout le même.
C'est ou mort ou parti, quoi.
Enfin, vous dites exactement. Je crois que c'est le cas dans toutes les guerres civiles. Dans un seul coup, soit on doit être des tueurs, engagé dans un groupe des milices, soit on doit partir. Et c'était ça l'idée, c'était ça le but du régime de Bachar al-Assad, vider la Syrie des vrais militants, des militants indépendants, les gens qui rêvent à un sort de liberté et de démocratie sur leur terrain, et rester seul face aux islamistes.
Alors, mais vous savez, c'est ça qui est terrible, ce que vous dites. D'ailleurs, votre roman le montre, parce qu'il y a des discussions politiques, et tout ce qu'il y a, et de ce point de vue, c'est très passionnant. C'est qu'on a l'impression que dans tout le Moyen-Orient, aujourd'hui, ou pratiquement tout le Moyen-Orient, le choix est encore entre les militaires, enfin le pouvoir militaire, et les islamistes. Et c'est deux choix terribles.
Un des personnages, c'est Mohamed qui annonce ça dans le roman, et je le crois aussi. Ouais. Parce que pour lui... Alors Mohamed, qui était l'amant de Youssef, de personnage dont on vient de parler, il représente les jeunes Syriens qui vivent dans l'hésitation. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils sont ni avec ni contre la révolution, ils ont peur de l'avenir, ils ne savent pas même dans leur vie quotidienne, parce que lui, il était bisexuel, ils ne savent pas ce que c'est bien ou pas, au contraire de Youssef, qui était totalement homosexuel. Mais pour lui, en fait, il a dit ça parce qu'il était tellement intéressé par rapport à l'histoire. Il a lu beaucoup de livres sur le Moyen-Orient, etc. Et il a découvert que depuis toujours, on vivait soit dans une guerre civile, soit chez un dictateur, soit dans l'occupation. Et c'est tellement triste, et c'est la vérité, malheureusement.
En tout cas, un livre passionnant, un livre très fort, un vrai témoignage, c'est un roman. Omar Youssef Souleymane, le dernier Syrien. Espérons que ce ne sera pas la dernière Syrie, en tout cas.
Et le dernier Syrien qui est publié, Omar Youssef Souleymane, chez Flammarion. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Bercoff. On vous retrouve lundi. Vous allez manifester, c'est ça? Enfin, vous retournez manifester?
Bien sûr. Avec vous, d'ailleurs, mon cher.
Oui. Alors, on ne sera peut-être pas dans le même camp, monsieur, comme dirait le préfet de police. On verra.
Vous serez toujours avec la police, vous, bien sûr.
Sauf quand vous serez au pouvoir, ça, c'est clair. 0-826-300-300. Vous nous appelez toujours pour laisser vos messages, André Bercoff. On vous retrouvera lundi à midi dans tous les états d'André Bercoff. La journée, elle continue en compagnie de Jacques Pessis sur Sud Radio pour les clés d'une vie qui aujourd'hui reçoit Régine. Belle journée et beau week-end à vous sur Sud Radio.